Chapitre 14. La fièvre du suicide communiquait à Lucien une grande lucidité d'idées et cette activité de main que connaissent les auteurs en proie à la fièvre de la composition. Ce mouvement fut tel chez lui que ses quatre pièces furent écrites dans l'espace d'une demi-heure. Il en fit un paquet, le ferma par des pains à cacheter, y mit, avec la force que donne le délire, l'empreinte d'un cachet à ses armes qu'il avait au doigt, et il le plaça très visiblement au milieu du plancher sur le carreau. Certes, il était difficile de porter plus de dignité dans la situation fausse où tant d'infamie avait plongé Lucien. Il sauvait sa mémoire de tout opprobre et il réparait le mal fait à son complice autant que l'esprit du dandy pouvait annuler les effets de la confiance du poète. Si Lucien avait été placé dans un des cabanons des secrets, il se serait heurté contre l'impossibilité d'y accomplir son dessein, car ces boîtes en pierre de taille n'ont pour tout mobilier qu'une espèce de lit de camp et un baquet destiné à d'impérieux besoins. Il ne s'y trouve pas un clou, pas une chaise, pas même un escabeau. Le lit de camp est si solidement scellé qu'il est impossible de le déplacer sans un travail dont s'apercevrait facilement le surveillant, car le judas en fer est toujours ouvert. Enfin, lorsque le prévenu donne des craintes, il est surveillé par un gendarme ou par un agent. Dans les chambres de la pistole et dans celles où Lucien avait été mis par suite des égards que le juge voulut témoigner à un jeune homme appartenant à la haute société parisienne, le lit mobile, la table et la chaise peuvent donc servir à l'exécution d'un suicide sans néanmoins le rendre facile. Lucien portait une longue cravate noire en soie et en revenant de l'instruction, il songeait déjà à la manière dont Pichegru s'était, plus ou moins volontairement, donné la mort. Mais pour se pendre, il faut trouver un point d'appui et un espace assez considérable entre le corps et le sol pour que les pieds ne rencontrent rien. Or, la fenêtre de sa cellule donnant sur le préau n'avait point d'espagnolette et les barreaux de fer scellés à l'extérieur, étant séparés de Lucien par l'épaisseur de la muraille, ne lui permettaient pas d'y prendre un point d'appui. Voici le plan que sa faculté d'invention suggéra rapidement à Lucien pour consommer son suicide. Si la hotte appliquée à la baie ôtait à Lucien la vue du préau, cette hotte empêchait également les surveillants de voir ce qui se passait dans sa cellule. Or, si dans la partie inférieure de la fenêtre, les vitres avaient été remplacées par deux fortes planches, la partie supérieure conservait, dans chaque moitié, de petites vitres séparées et maintenues par les traverses qui les encadrent. En montant sur sa table, Lucien pouvait atteindre à la partie vitrée de la fenêtre, en détacher deux verres ou les casser, de manière à trouver dans le coin de la première traverse un point d'appui solide. Il se proposait d'y passer sa cravate, de faire sur lui-même une révolution pour la serrer autour de son cou, après l'avoir bien nouée, et de repousser la table loin de lui d'un coup de pied. Donc, il approcha la table de la fenêtre sans faire de bruit, il quitta sa redingote et son gilet, puis il monta sur la table sans aucune hésitation pour trouer deux vitres au-dessus et au-dessous du premier bâton. Quand il fut sur la table, il put alors jeter les yeux sur le préau, spectacle magique qu'il entrevit pour la première fois. Le directeur de la conciergerie, ayant reçu de M. Camusot la recommandation d'agir avec les plus grands égards avec Lucien, l'avait fait conduire, comme on l'a vu, par les communications intérieures de la conciergerie, dont l'entrée est dans le souterrain obscur qui fait face à la tour d'argent, en évitant ainsi de montrer un jeune homme élégant à la foule des accusés qui se promènent dans le préau. On va juger si l'aspect de ce promenoir est de nature à saisir vivement une âme de poète. Le préau de la conciergerie est borné sur le quai par la tour d'argent et par la tour Bombec. Or, l'espace qui les sépare indique parfaitement au dehors la largeur du préau. La galerie dite de Saint-Louis, qui mène de la galerie marchande à la cour de cassation et à la tour Bombec, où se trouve encore, dit-on, le cabinet de Saint-Louis, peut donner aux curieux la mesure de la longueur du préau, car elle en répète la dimension. Les secrets et les pistoles se trouvent donc sous la galerie marchande. Aussi, la reine Marie-Antoinette, dont le cachot est sous les secrets actuels, était-elle conduite au tribunal révolutionnaire, qui tenait ses séances dans le local de l'audience solennelle de la cour de cassation, par un escalier formidable pratiqué dans l'épaisseur des murs qui soutiennent la galerie marchande et aujourd'hui condamnée. L'un des côtés du préau, celui dont le premier étage est occupé par la galerie de Saint-Louis, présente au regard une enfilade de colonnes gothiques entre lesquelles les architectes de je ne sais quelle époque ont pratiqué deux étages de cabanon pour loger le plus d'accusés possible, en empâtant de plâtre, de grilles et de scellements les chapiteaux, les ogives et les futs de cette galerie magnifique. Sous le cabinet dit de Saint-Louis, dans la tour Bombec, tourne un escalier en colimaçon qui mène à ses cabanons. Cette prostitution des plus grands souvenirs de la France est d'un effet hideux. À la hauteur où Lucien se trouvait, son regard prenait en écharpe cette galerie et les détails du corps de logis qui réunit la tour d'argent à la tour Bombec. Il voyait les toits pointus des deux tours. Il resta tout ébahi, son suicide fut retardé par son admiration. Aujourd'hui, les phénomènes de l'hallucination sont si bien admis par la médecine que ce mirage de nos sens, cette étrange faculté de notre esprit, n'est plus contestable. L'homme, sous la pression d'un sentiment, arrivé au point d'être une monomanie à cause de son intensité, se trouve souvent dans la situation où le plonge l'opium, le haschich et le protoxyde d'azote. Alors apparaissent les spectres, les fantômes, alors les rêves prennent du corps, les choses détruites revivent dans leurs conditions premières. Ce qui, dans le cerveau, n'était qu'une idée, devient une créature animée. La science en est à croire aujourd'hui que, sous l'effort des passions à leur paroxysme, le cerveau s'injecte de sang et que cette congestion produit les jeux effrayants du rêve dans l'état de veille, tant on répugne à considérer, voyez Louis Lambert, études philosophiques, tant on répugne à considérer la pensée comme une force vive. Lucien vit le palais dans toute sa beauté primitive. La colonnade fut svelte, jeune, fraîche. La demeure de Saint-Louis reparut telle qu'elle fut. Il en admirait les proportions babyloniennes et les fantaisies orientales. Il accepta cette vue sublime comme un poétique adieu de la création civilisée. En prenant ses mesures pour mourir, il se demandait comment cette merveille existait inconnue dans Paris. Ils étaient deux Luciens, un Lucien poète en promenade dans le Moyen-Âge, sous les arcades et sous les tourelles de Saint-Louis, et un Lucien apprêtant son suicide. Au moment où M. de Granville sortit de son cabinet, le directeur de la conciergerie y entrait, et l'expression de cette physionomie était telle que le procureur général rentra. D'ailleurs, le directeur avait à la main un paquet et lui disait « Voici, monsieur, un paquet de lettres pour vous qui viennent d'un prévenu dont le triste sort m'amène. » « Serait-ce M. Lucien de Rubempré ?» demanda M. de Granville, saisi par une angoisse affreuse. « Oui, monsieur, le surveillant du préau a entendu un bruit de carreaux cassés à la pistole et le voisin de M. Lucien a jeté des cris perçants car il entendait l'agonie de ce pauvre jeune homme. Le surveillant est revenu, pâle du spectacle qui était offert à ses yeux. Il a vu le prévenu pendu à la croisée au moyen de sa cravate. Quoique le directeur parlât à voix basse, le cri terrible que poussa Madame de Sérisy prouva que, dans les circonstances suprêmes, nos organes ont une puissance incalculée. La comtesse entendit ou devina, mais avant que M. de Granville se fût retourné, sans que ni M. de Sérisy ni M. de Beauvent puissent s'opposer à des mouvements si rapides, elle fila comme un trait par la porte et parvint à la galerie marchande où elle courut jusqu'à l'escalier qui descend à la rue de la Barillerie. Un avocat déposait sa robe à la porte d'une de ces boutiques qui, pendant si longtemps, encombrèrent cette galerie où l'on vendait des chaussures, où l'on louait des robes et des toques. La comtesse demanda le chemin de la conciergerie. « Descendez et tournez à gauche. L'entrée est sur le quai de l'horloge, la première arcade. »« Cette femme est folle, » dit la marchande, « il faudrait la suivre. » Personne n'aurait pu suivre Léontine, elle volait. Un médecin expliquerait comment ces femmes du monde, dont la force est sans emploi, trouvent dans les crises de la vie de telles ressources. Elle se précipita par l'arcade vers le guichet, avec tant de célérité que le gendarme en faction ne la vit pas entrer. Elle s'abattit comme une plume poussée par un vent furieux à la grille. elle en secoua les barres de fer avec tant de fureur qu'elle arracha celle qu'elle avait saisie. Elle s'enfonça les deux morceaux sur la poitrine, d'où le sang jaillit, et elle tomba en criant « Ouvrez ! Ouvrez !» d'une voix qui glaça les surveillants. Le porte-clés accourut. « Ouvrez ! Je suis envoyé par le procureur général pour sauver le mort !» Pendant que la comtesse faisait le tour par la rue de la Barillerie et par le quai de l'Horloge, M. de Granville et M. de Sérisy descendaient à la conciergerie par l'intérieur du palais en devinant l'intention de la comtesse. Mais malgré leur diligence, ils arrivèrent au moment où elle tombait évanouie à la première grille et qu'elle était relevée par les gendarmes descendus de leur corps de garde. À l'aspect du directeur de la conciergerie, on ouvrit le guichet, on transporta la comtesse dans le greffe. Mais elle se dressa sur ses pieds et tomba sur ses genoux en joignant les mains.
« Le voir ! Le voir ! Oh, messieurs, je ne ferai pas de mal ! Mais si vous ne voulez pas me voir mourir là, laissez-moi regarder Lucien, mort ou vivant ! Ah, tu es là, mon ami ! Choisis entre ma mort ou... »
Elle s'affaissa.
« Tu es bon, reprit-elle, je t'aimerai ! Je t'aimerai !»«
Emportons-la, dit M. de Beauvan. » « Non, allons à la cellule où est Lucien, » reprit M. de Granville en lisant dans les yeux égarés de M. de Sérisy ses intentions. Et il saisit la comtesse, la releva, la prit sous un bras, tandis que M. de Beauvan la prenait sous l'autre. « Monsieur, » dit M. de Sérisy au directeur, « un silence de mort sur tout ceci. »« Soyez tranquille, » répondit le directeur, « vous avez pris un bon parti. Cette dame, c'est ma femme. »« Ah, pardon, monsieur. » Eh bien, elle s'évanouira certainement en voyant le jeune homme, et pendant son évanouissement, on pourra l'emporter dans une voiture. C'est ce que j'ai pensé, dit le comte. Envoyez un de vos hommes dire à mes gens, cour de Harlay, de venir au guichet, il n'y a que ma voiture là.
Nous pouvons le sauver,
disait la comtesse, en marchant avec un courage et une force qui surprirent ses gardes.
Il y a des moyens de rendre à la vie!
Et elle entraînait les deux magistrats en criant aux surveillants
« Allez donc, allez plus vite! Une seconde vaut la vie de trois personnes !»
Quand la porte de la cellule fut ouverte et que la comtesse aperçut Lucien, pendu comme si ses vêtements eussent été mis à un porte-manteau, d'abord elle fit un bond vers lui pour l'embrasser et le saisir. Mais elle tomba la face sur le carreau de la cellule en jetant des cris étouffés par une sorte de râle. Cinq minutes après, elle était emportée par la voiture du comte vers son hôtel, couchée en long sur un coussin, son mari à genoux devant elle. Le comte de Beauvan était allé chercher un médecin pour porter les premiers secours à la comtesse. Le directeur de la conciergerie examinait la grille extérieure du guichet et disait à son greffier « On n'a rien épargné. Les barres de fer sont forgées, elles ont été essayées, on a payé cela très cher. » Et il y avait une paille dans ce barreau-là. Le procureur général, revenu chez lui, disait à Massol qu'il trouva l'attendant dans l'antichambre du parquet. « Monsieur, mettez ce que je vais vous dicter dans le numéro de demain de votre gazette, à l'endroit où vous donnez les nouvelles judiciaires, vous ferez la tête de l'article. » Et il dicta ceci. « On a reconnu que la demoiselle Esther s'est volontairement donné la mort. » L'alibi bien constaté de M. Lucien de Rubempré, son innocence, ont d'autant plus fait déplorer son arrestation qu'au moment où le juge d'instruction donnait l'ordre de l'élargir, ce jeune homme est mort subitement. « Votre avenir, monsieur, dit le magistrat à Massol, dépend de votre discrétion sur le petit service que je vous demande, ajouta M. de Granville. Puisque M. le procureur général me fait l'honneur d'avoir confiance en moi, « Je prendrai la liberté, répondit Massol, de lui présenter une observation. Cette note inspirera des commentaires injurieux sur la justice. »« La justice est assez forte pour les supporter, » répliqua le magistrat. « Permettez, monsieur le comte, on peut, avec deux phrases, éviter ce malheur. » Et l'avocat écrivit ceci. « Les formes de la justice sont tout à fait étrangères à ce funeste événement. » L'autopsie, à laquelle on a procédé sur le champ, a démontré que cette mort était due à la rupture d'un anévrisme à son dernier période. Si M. Lucien de Rubempré avait été affecté de son arrestation, sa mort aurait eu lieu beaucoup plus tôt. Or, nous croyons pouvoir affirmer que, loin d'être affligé de son arrestation, il en riait et disait à ceux qui l'accompagnèrent de Fontainebleau à Paris qu'aussitôt arrivé devant le magistrat, son innocence serait reconnue. « N'est-ce pas sauvé tout ?» demanda l'avocat journaliste. « Merci, monsieur, » répondit le procureur général. Ainsi, comme on le voit, les plus grands événements de la vie sont traduits par de petits faits plus ou moins vrais. Paris, mars 1846.